Allez, c'est Halloween, il y a plein de films de zombies à la con, je commence à en avoir marre là maintenant.
Thomas, Thomas, Thierry, putain, il y a Octave, il s'est fait bouffer, il est bizarre.
Octave ? Qu'est-ce que t'as fait ?
Octave ! Ah ! Bonjour et bienvenue dans Certains Les Machos. Pauvre Alex qui s'est fait bouffer pendant le pré-générique.
Je connais une incantation coréenne qui pourrait le ramener, il va falloir qu'on essaye tout à l'heure.
Certains Les Machos, l'émission qui bouffe ses chroniqueurs à la sortie.
C'est triste, mais c'est un mal nécessaire. D'ailleurs, ça nous a permis d'avoir de l'inspiration pour une belle émission.
Voilà, une belle émission avec plein de films cette semaine encore, c'est une semaine Halloween. Bon alors Halloween est passé puisqu'on est le week-end, hein, mais bon, les films de The Zombie sortent Halloween, donc on pouvait pas les passer avant, voilà.
Oui, alors, la plupart des gens qui vont nous écouter viennent à peine de se remettre de leur gueule de bois dans la tête, on a encore le 31.
Mais c'est tout le temps Halloween, avec le cinoche, les zombies, les serial killers, les sorciers venus de je sais pas où, non, c'est bon, c'est toujours Halloween. Cette semaine, dans certains L'aime à chaud.
Retour à Zombieland par le réalisateur de Venom.
Le traître de Marco Bellocchio.
Mon chien stupide de Ivan Attal.
Stephen King's Doctor Sleep
de Mike Flanagan.
Little Monsters, un film indépendant australien.
The Laundromat, un film Netflix sur l'affaire des Panama Papers.
Et on prend notre plus bel accent du sud pour les municipaux, trop c'est trop, la dernière douceur des chevaliers du fiel.
Toujours plus loin dans l'horreur.
Plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.
Welcome to Zombieland. Life is about more than just survival. We were a family. Dysfunctional, sure, but what family isn't?
Merry Christmas! What would you like, little girl?
I'd really like for you to stop calling me little girl.
But do you know what I would like?
I don't give a shit what you...
It felt so good to be on the move again.
Oh my God, I'm so sorry. Hi, I'm Columbus.
Madison.
This is Tallahassee.
Hey, Paul Blart. Is this your dad? Oh, whoopsie, I forgot the seatbelt rule.
Halloween approche. Halloween, c'est les monstres, c'est les zombies. Retour à Zombieland, 10 ans après Bienvenue à Zombieland. Le réalisateur Ruben Fleischer remet le couvert. Avec le casting de base, Woody Harrelson, J.C. Eisenberg, Emma Stone et Abigail Breslin. Avec une superbe promo sur le film. On nous dit le réalisateur de Venom et les scénaristes de Deadpool. Et d'ailleurs les scénaristes, ils ont fait aussi G.I. Joe Conspiration aussi.
Ah non mais Deadpool, tu sens que ça vend. Hein. Tim Miller pour Terminator, on l'a mis vachement en avant parce que Deadpool, maintenant ça tu vois.
Ils ont aussi reçu en renfort le scénariste, enfin, un des scénaristes d'Expandables, de 1 à 4. Donc c'est génial.
Il y avait besoin de beaucoup de scénaristes.
Ouais. Voilà. Donc, retour à Zombieland 10 ans après. Est-ce que ça valait le coup d'y revenir ? Avec moi Thierry et Hera.
Bonjour Thomas.
Est-ce que ça valait le coup de revenir 10 ans après ?
Zombieland, c'était cool parce que c'était un one-shot. Ça déjà, je réponds à la question. Je pars tout de suite sur le fait que c'était une épouvantable merde ou on argumente d'abord ?
Ah bon, donc Thierry n'est pas content. Hera, toi, ce petit voyage à Zombieland.
Bah pas mieux, mais est-ce qu'on peut spoiler ? Parce que bon, parce que là j'ai trop de trucs à dire sur... Mais ça spoil direct, donc bon, voilà.
Bon, ça spoil, donc vous pourrez avancer, regarder la timeline. Là, on va spoiler Zombieland à fond. En même temps, est-ce que c'est grave de spoiler Zombieland
Parce qu'il faut pas y aller, n'y allez surtout pas. Ne donnez pas surtout de, film à ce... enfin, de fric à ce film, quoi. Putain.
Bon, ok. Donc c'était bien le réalisateur de Venom. Très bien. Bon, bah... Avant de spoiler, moi, je trouve qu'il y a quelques fulgurances au milieu de cet océan de médiocrité. Mais de platitude, plutôt.
Alors, c'est effectivement un film qui est très plat, où aucun ressort scénaristique, si on peut considérer ça comme un ressort scénaristique, n'a de sens ou n'a de raison d'être. On va très vite, donc début de l'histoire cette fois-ci, donc ils se retrouvent, les quatre personnages se retrouvent à la Maison Blanche pour vivre un peu entre eux. La petite sœur Little Rock veut se barrer, s'émanciper parce qu'elle en a marre de faire tout le temps la même chose et qu'elle voudrait rencontrer, avoir des copains de son âge, ce qui est complètement normal pour une gamine de cet âge-là, bref. Et donc elles vont finir par se barrer avec sa sœur qui vient d'être demandée en mariage par le personnage de Jesse Eisenberg et qui fuit parce que, bon voilà, émotionnellement un peu instable. Donc elle se casse, très vite les deux hommes vont croiser un personnage, donc le personnage de Madison, qui est la nanette, un peu la nanette décérébrée américaine, typique Barbie. Déjà, ça me fait beaucoup de peine de voir à quel point ils ont été chopés des clichés à fond pour s'en servir pour que dalle.
D'ailleurs, je crois l'avoir vu dans The Politician, la nénette, la Barbie.
Peut-être. Bon, mais ça ne me dit rien.
Série pourrie sur Netflix.
D'accord, ouais, bon, voilà. Et donc, ce personnage qu'il rencontre ne va faire que jouer le rôle de la décérébrée, ne va rien apporter du tout au scénario, si ce n'est un éventuel pseudo-ressort comique qui ne sert qu'à enfoncer des clichés. Et tout est juste basé là-dessus et ça ne sert strictement à rien tout le temps.
C'est un film à sketch, donc il faut des persos stéréotypés qu'on comprenne très vite. Par contre, le problème, c'est que c'est qu'un enchaînement de sketch et pas très heureux et pas toujours très bien rythmé et qui tombe pas toujours très bien.
C'est une ressucée énorme du premier. Le seul truc sur lequel tu peux te raccrocher, c'est le fait qu'il y ait les règles écrites en énorme à l'écran chaque fois qu'il les respecte. On l'a déjà vu ce film-là, en fait. Donc du coup, oui, là, voilà, ils ont fait le même film en rajoutant en juste des plots amoureux, quoi. Le problème, c'est que là, c'est limite la toile principale. Lui, je t'ai demandé un mariage, tu veux pas de moi, mais apprends à m'aimer et tu verras que tu veux de moi parce que quand t'es jalouse, tu m'aimes. Voilà, c'est ça le film, hein. Dire ça raconte que ça, et sous fond de zombies, donc au pire, fais un autre film. Bref.
C'est prétexte, hein. Il faut pas s'attarder là-dessus.
Non, c'est ça, non, c'est pas prétexte, c'est le scénario principal. C'est le scénario principal, c'est là-dessus que le scénario appuie, c'est ça le problème. Et c'est pas prétexte, puisque étant donné que les scènes d'action sont sous-exploitées, mal foutues, non Thomas, ne me regarde pas comme ça, il n'y a pas de scènes d'action, elles sont sous-cotées, elles sont mal branlées, elles ne relèvent jamais de rien, il n'y a jamais de moment jouissif à part une scène, et encore, elle n'est pas si bien foutue que ça. Et non, moi je vais citer juste un truc. Pour expliquer ce qui m'agace le plus en plus. Bon, de toute façon, c'est sûrement les défauts du premier, en fait. Il y a une vidéo d'un artiste qui s'appelle Tony Zhu qui fait une chaîne qui s'appelle Every Frame a Painting sur ce qu'on appelle How to Make a Visual Comedy. Ça parlait du travail d'Edgar Wright. Ça parle de Shaun of the Dead, notamment. Et donc, ça explique qu'en fait, le problème entre l'Angleterre et les États-Unis, c'est que les Anglais montrent une blague qui est pertinente. Les Américains ont besoin de l'expliquer. Dans Shaun of the Dead, il y a une scène des doubles. Ils arrivent et ils voient exactement des gens qui leur ressemblent, qui ont les mêmes attributs, qui ont les mêmes trucs, ils se regardent, ils sont « Oh putain de merde, ils me ressemblent » et ils passent leur chemin. Ça s'arrête là. Dans Zombieland, il y a exactement la même scène. Mais sauf que tu vois donc un personnage qui arrive qui ressemble au personnage de Tallahassee joué par Woody Harrelson, qui est joué par Luke Wilson. Et là, ah tiens, il a un pote un peu chétif et qui est un peu maniéré et qui a aussi des règles qui ressemblent donc au personnage de Jesse Eisenberg. C'est marrant. Ça pouvait s'arrêter là, mais non, ils font un concours de règles. Il y en a un qui dit « Moi, j'ai des commandements, j'ai les mêmes noms, juste pour nous. » Et ça sert juste à un truc. Ça sert pas juste à nous montrer qu'ils ont des commandements différents parce que c'est marrant. Non, parce que c'est pas drôle. C'est juste pour montrer, t'as vu, ils se ressemblent. Parce que, mais vu que tu l'as pas compris, on va te le faire ça pendant 5 minutes pour te montrer qu'ils se ressemblent, en fait. Pour te montrer que c'est le même perso, hein. T'as vu ?
C'est pour aussi sur représenter les règles, représenter le caractère des personnages, des fois que t'es pas compris. Mais c'est lourd, oui. Cet humour est lourd et mal rythmé, c'est ce qu'on disait. On en revient à la même chose.
C'est méga mal rythmé, y a aucun ressort. En fait, ce qui est terrible, c'est que chacune des scènes, que ce soit une scène d'amour, d'émotion, de tristesse, présupposée tristesse, quelle émotion que ce soit, ce n'est jamais développé, ce n'est jamais montré. C'est toujours extrêmement léger, on passe d'une scène à l'autre et on s'en fout à chaque fois. Donc, ça donne un ensemble très plat en termes de rythme. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas non plus de gros temps d'action, tout est ultra linéaire. Ce qui fait qu'au début, on peut se laisser un peu charmer en se disant « Ah tiens, c'est un peu fun, il y a quelques vannes qui sont cool, qui marchent. » Et petit à petit, en fait, vu que tu restes sur le même rythme, tu t'endors. Tu te laisses guider, tu es en train de regarder, mais en mode zombie devant, en fait.
Oui, d'autant qu'il y a pas mal de trucs qui ne sont pas exploités. C'est-à-dire qu'ils commencent, ils nous introduisent le film en nous disant que les zombies ont évolué. Donc ils nous montrent une série de zombies, ils en exploitent, deux, dans tout ce qu'ils nous ont montré, et encore même pas vraiment, parce qu'on ne voit pas trop la différence finalement. C'est juste pour dire qu'il y a plus de danger, mais en fait on ne voit pas trop la différence. C'est assez dommage, et les sketchs, moi je trouve que ça met beaucoup de mal à démarrer, et heureusement qu'on tape des zombies de temps en temps, histoire de se réveiller, parce que...
Pas assez, le premier faisait aussi ce genre de truc, de faire des sketchs, d'essayer de faire des sous-intrigues, mais au moins... Il y avait toujours le fil conducteur de l'apocalypse zombie. Comme tu le disais, on nous présente donc trois nouvelles variations de zombies qu'on voit à peine, chacun a vraiment mais deux mini-scénettes qui servent à faire des sketchs. Donc c'est pas très utile. Et il y en a un nouveau qui vient d'arriver et qu'on te présente comme un gros antagoniste. Un nouveau zombie que tu peux quasiment pas buter, qui est super compliqué. Donc du coup, ça pourrait représenter énormément d'enjeux, surtout qu'à la fin, t'as une armée de ces zombies-là qui leur arrivent dans la gueule. Sauf qu'il y a tellement pas d'enjeux que t'en as rien à foutre, tu sais qu'ils vont gagner de toute façon, c'est juste la question que tu te poses, c'est comment est-ce que ça va être fun à regarder ? Quand est-ce qu'on va rigoler parce qu'ils vont dérouiller du zombie à pain, selon où tu te dis, peut-être qu'on peut craindre un peu pour les personnages. Alors, certes, c'est une comédie, mais putain, même dans le premier, c'était une comédie, mais tu te doutais pas forcément que les personnages allaient survivre absolument tout. Là, tu t'en fous, quoi. C'est toujours, tout est trop facile, quoi.
Ouais, même les personnages secondaires sont sauvés, c'est déprimant. C'est déprimant.
Ouais, et puis tu citais tout à l'heure Shaun of the Dead, et effectivement, c'est compliqué de pas faire un espèce de petit comparatif quand même entre les deux, mine de rien, parce que Shaun of the Dead est une excellente comédie, et ce qui fonctionne chez Edgar Wright et qui là ne fonctionne pas, c'est justement cette capacité à insérer des passages un peu plus tristes, un peu plus réalistes, un peu plus profonds, qui viennent clairement sauver le film et qui viennent créer quelque chose, créer une dynamique qui est intéressante et qu'on n'a pas là, parce que là, au fond, il n'y a rien qui est intéressant, profond, ou avec lequel tu vas ressortir en disant « Ah tiens, ça, c'était mémorable. »
Oui, on a, à part quelques sketchs, le concours du meilleur kill, il y a des trucs intéressants, mais c'est des trucs éparses comme ça au milieu du film. Bon.
C'est ça. Oui, non, oui, en effet, c'est ça. Comme tu le dis, de temps en temps, il y a un moment où tu fais « Ah, au fait, tu sais, il y a machin qui a fait ça à l'autre bout du monde. » Tu vois une blague. C'est super drôle. T'avais envie de voir un film comme ça, en fait. Parce que tu te dis « Ah oui, il a donc une capacité à te balancer des sketchs, des cérébrés, fun. » Et c'était ça, d'ailleurs, le premier, en fait. Et sauf que là, c'est mis dans du pathos et du chiant. Je me pose toujours la question de pourquoi Ruben Fleischer a fait ce film. Parce que, d'une part, ses acteurs, à part Woody Harrelson, c'est le seul, je trouve, qui s'en sort parce que c'est le seul qui s'éclate totalement. Il surjoue à mort. Hein. Il en a rien à foutre, il s'éclate, mais au moins, il en fait 3 tonnes et du coup, il est fun à regarder. Les autres acteurs, c'est con à dire. Ils ont passé ce niveau-là. Ils ont plus envie de faire de la petite comédie, à mon avis. Clairement, Emma Stone et
Eisenberg,
ils sont venus parce qu'il devait y avoir un beau chèque. Parce que, clairement. Ils ont plus que ça à foutre. C'est triste à dire, mais ils ont plus que ça à foutre. C'est triste hein, de pas vouloir refaire de la comédie comme ça.
Ça fait des sous, ça va marcher. Enfin, ça va marcher juste avant Halloween. Voilà, il n'y a pas de question à se poser.
Tout ça pour dire que 10 ans après, ça ressort de nulle part. Ce truc-là n'avait pas lieu d'être et qu'ils le refont juste pour le faire, quoi. Et
10 ans après.
Clairement, il n'y a pas de bonne raison.
Tu peux. Alors, ils voulaient le faire plus tôt, mais je crois que les scénaristes étaient occupés. La bonne excuse. Bon, ben c'est indigestion, quoi. Hein. Mauvaise tournée de bonbons. Des bonbons un peu mous. Bon, des petits coca piquants de temps en temps, histoire de se réveiller, mais après, c'est les marques repères, tu sais. C'est les marques. Tu crois que t'as des bonbons.
La marque Pousse, quoi.
La marque Pousse ou la marque pas chère ou la marque distributeur.
Merci les sponsors, on vous aime. C'est bon, on a fait le placement.
Non, mais tu sais, c'est le truc, tu crois que c'est bon et en fait, ben non, quoi.
Quand on file un paquet de bonbons et que tu découvres que c'est de la réglisse.
Ah là 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 là. Bon, ben on va filer les bonbons aux chiens. Hein.
Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Ma femme, Cécile. 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire. Elle m'avait donné 4 enfants que j'aurais joyeusement échangés contre une Porsche neuve. Car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire, tout était de la faute de mes 4 enfants qui ont ce don quasi magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur.
En 2012, Yvan Attal revenait sur le devant de la scène avec Do Not Disturb, comédie un peu grinçante et relativement sympathique. En 2016, il nous avait fait un film à sketch, Ils sont partout, film relativement inégal puisque c'est un film à sketch. Et cette année, il revient avec une adaptation de livre qui s'appelle Mon chien stupide. Mon chien stupide, donc de Yvan Attal, avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Pascal Arbillot et plein d'autres. Thomas, tu allais le voir pour nous. Est-ce que tu veux nous en donner quelques mots?
Oui, alors tu parles de Do Not Disturb où c'était deux potes qui doivent tourner un film porno ensemble, c'est ça?
C'est ça, oui, tout à fait.
C'est, en plus, c'est un porno gay du coup, parce que c'est deux mecs, c'est ça?
C'est deux mecs qui sont très réticents à l'idée, mais qui à la fois se posent la question et qui acceptent de tourner, enfin, qui choisissent de tourner un film ensemble pour voir ce que ça fait.
Visiblement, ça le turlupine parce que là, mon chien stupide, donc stupide, c'est le nom du chien, et c'est un chien qui est ouvertement pédé. Une des caractéristiques du chien, c'est bien annoncé dans le film et c'est répété. Donc, bon. Donc c'est l'histoire de Yvan Attal, j'ai oublié le nom de son perso mais on s'en fout, qui est écrivain. Il a eu un grand succès il y a 25 ans, il a eu des prix, il a vendu des tonnes de romans et tout, mais depuis il a écrit que des merdes et il attribue son malheur, et, parce qu'en plus il est triste, il est pas bien, il enchaîne les échecs les uns après les autres, et il attribue son malheur et ses échecs à sa femme et ses 4 gosses. En fait, il l'empêche de réussir parce que dès qu'il il passe son temps à s'occuper d'eux, ils sont insupportables aussi. Bon, ils sont assez casse-couilles, on peut le dire. Un jour dans sa vie, il y a un chien qui vient taper l'incruste à la maison. C'est une espèce de gros Saint-Bernard. Enfin, j'y connais pas grand-chose en kleps, mais je crois que c'est ça. Et donc, il tape l'incruste. Et bon, comme Yvan Attal, son personnage, a perdu son chien il y a quelques années, qu'il était triste, ben là, il est content de l'avoir. Et donc son chien fait chier tout le monde, mais il s'en fout, il le garde. Et le chien va petit à petit dégager tous les membres de la maison et virer la maison. Et donc ça va faire de l'espace à notre écrivain qui va pouvoir libérer sa créativité.
Bon, alors là déjà, de ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'on retrouve cette espèce d'esprit très cynique, c'est le cas de le dire, d'Yvan Attal, ouais, du coup.
C'est exactement le mot, c'est cynique. Alors cynique, ce sont dans les dialogues, parce qu'il y a une certaine libération. C'est un mec qui a la cinquantaine, qui voit sa vie, qui se dit que sa vie est foutue, qu'il ne fera plus rien, qu'il voit tous ses échecs, et le mec est désabusé. Cet écrivain-là, c'est le personnage le plus intéressant du film, évidemment. Bon, c'est le personnage central en même temps, hein. Heureusement. Mais par rapport à beaucoup de personnages archétypés derrière, les gamins qui sont assez archétypés, ce sont tous une tare chacun à leur manière. Celui qui fume des joints toute la journée, qui se tape une stripteaseuse, la fille qui tape du pognon tout le temps, le fils sportif mais qui se fait faire ses devoirs par sa mère. Bon, plein de trucs joyeux. Le mec est tellement désabusé que finalement il a plus de filtre quand il parle de ses gosses et donc il se lâche. Et donc ça, c'est assez jouissif. On y revient, et c'est peut-être le principal ressort comique, c'est un peu lassant, c'est le chien qui va se jeter sur des mecs pour tenter de les niquer. Et il fait ça sur les chiens, il fait ça aussi sur le chien du voisin qui casse les pieds du romancier. Il fait ça sur tous les gens, tous les mecs un peu antipathiques, et ça devient un running gag un peu lassant, quoi. Après, on est énormément dans le dialogue. Alors ici, on n'est pas dans un appartement parisien, on est dans une villa au bord de la mer.
Ah, donc plutôt Guillaume Canet que Christophe Honoré.
Ouais, sauf que là, il est pas en vacances. Là, il est dans la routine, il se fait chier. Bon, voilà. Les personnages sont pas aussi insupportables que dans Les Petits Mouchoirs et nous finirons ensemble. Donc, ça va. Mais c'est vrai qu'on a quand même envie de les tarter. C'est fait exprès puisque là, le personnage a envie de les virer. Donc, c'est normal que les persos soient pénibles. À la fin, on sent que le cynisme s'évapore un peu, laisse place à la tristesse. Et. C'est presque dommage que le cynisme tienne pas tout le long du film. Bon, alors après, c'est pour montrer qu'être désabusé, c'est une posture et que quand même la famille, c'est important parce que bon, se retrouver tout seul pour les chiens, quand même, c'est triste. Hein, voilà, bon, hein, on a compris, hein, c'est triste. Hein, bon, voilà.
C'est triste.
Et que l'amour et sa femme, quand même, c'est bien. Hein, voilà, que, bon, hein, quand même, voilà.
Bon, j'ai l'impression que c'est une sorte de demi-teinte dont tu apprécies pas mal ce qu'il y a sur le papier, mais pas toujours la façon dont c'est montré. Il y a de l'épuisement, j'ai l'impression, un petit peu dans ce film, parce que ça tourne vite en rond, c'est ça, si je résume bien.
Alors, pour résumer, il y a des textes intéressants. Moi, j'aime bien les textes, le cynisme, l'histoire, j'aime bien ce que ça raconte. Bon, même si c'est très chapitré, alors il y a aussi le truc qui m'énerve, c'est le chapitrage. Bon, comme c'est l'histoire d'un écrivain qui a écrit son bouquin et qu'en fait, il écrit le bouquin du film, ça se justifie finalement scénaristiquement. Donc, allez. Ça va pour cette fois, circuler, il n'y a rien à voir. Mais alors après, c'est vrai que réaliser et se mettre en scène en même temps, c'est compliqué. Il y a des fois, je ne suis pas totalement dedans. Je ne suis pas totalement dans le jeu. Voilà, je ne suis pas totalement à fond. Je trouve que le jeu n'est pas au niveau du texte. Enfin, et pas complètement au service du texte.
Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lu le livre qui ont visiblement été déçues. Oh, on ne va pas revenir là-dessus parce que nous, on n'a pas lu le bouquin. Donc, ce sera intéressant d'en discuter avec ceux qui ont lu le livre. Si vous avez lu le livre, venez nous en parler en commentaire justement pour qu'on voit quelles sont les différences et ce qui a pu déplaire. En tout cas, est-ce que tu recommandes malgré tout d'aller voir Mon Chien Stupide ? Est-ce que ça reste une surprise intéressante ?
Pour des littéraires qui parlent entre eux, c'était plus agréable que Chambre 212.
Nessuno si immaginava che lei collaborasse con un giudice, lo sta facendo.
Io sono stato e resto un uomo d'onore. Sono loro che hanno tradito gli ideali di Cosa Nostra. E questo io non mi considero un pentito.
Ho delle documentazioni che posso trovare che Buscetta è un bugiardo.
Io rinnego questo nome, io rinnego Tommaso Buscetta e non dite più che mio fratello.
On est en pleine semaine de festival. C'est compliqué pour nous de réussir à caler des séances et pour que vous puissiez avoir un épisode complet, on va voir des films un peu à droite à gauche, chacun de notre côté. Thomas, tu es allé voir en avant-première Le Traître de Marco Bellocchio, film italien.
Oui, Le Traître, c'est l'histoire de Tommaso Bruschetta, interprété par Pier Francesco Favino, qui durant les années 80 était un ancien, alors c'était un ancien membre de la Cosa Nostra. Il a été, on l'appelait le maître des deux mondes parce qu'il régissait des affaires dans la mafia sicilienne en Italie, puis il avait aussi du trafic au Brésil, il faisait un peu aller-retour. Et bon, il s'est fait choper par les flics au Brésil, il s'est fait torturer, il s'est fait coffrer, il s'est évadé une première fois, il se refait choper, il se refait torturer. Et on est dans les années 80. Et les années 80, pour les plus vieux, vous vous souviendrez, c'est la période durant laquelle le juge Falcone, en Italie, a mené la guerre. C'est vraiment, on parle de guerre à l'époque, contre la Cosa Nostra. À l'époque, c'est vraiment, on a démantelé, on s'est attaqué à la mafia sicilienne. C'est un truc de fou. Pour dire, le juge Falcone, les mafieux étaient tellement vénères qu'il y a eu des attentats. C'était une période où il y avait beaucoup d'attentats. Et pour abattre le juge Falcone, les mecs sont allés jusqu'à abattre un pont d'autoroute. Pour te dire que ça déconne pas. Et il réussit à négocier, il réussit à convaincre ce fameux Tommaso Bruschetta, et donc c'est l'histoire de ce mec qu'on va suivre, de parler. Et il est connu parce que c'est son témoignage a réussi à faire tomber plus de 300 mafieux à peu près. C'est quelque chose de fou. Son témoignage a dévoilé tellement de trucs parce qu'on ne savait pas comment ça marchait à l'époque. Son témoignage a permis de faire un coup de filet monumental et on a dû construire un tribunal à côté de la prison même pour pouvoir juger tous les mecs qu'on a chopés à l'époque. D'ailleurs, il y a des scènes dans le film qui sont incroyables. C'est des scènes de procès, et la première en particulier, où on a une salle d'audience avec des cellules tout autour de la salle d'audience, avec tous les mafieux qui font leur sketch, qui font leur show. Et donc, on a notre traître, finalement, la balance, qui est au milieu, et qui est finalement dans l'arène, au milieu de tout ça. C'est un cirque incroyable. On a on le croirait pas. C'est tiré d'une histoire vraie, heureusement, parce que sinon, on n'y croirait absolument pas. C'est incroyable d'avoir reconstitué cette scène. Si vous aimez les films de mafieux, si vous aimez la mafia, bon alors c'est pas Le Parrain, hein, faut pas déconner. Mais c'est vrai que en matière d'histoire, c'est plutôt bien renseigné, un peu romancé aussi, parce que là actuellement, le Tommaso Bruschetta, bon alors il est décédé, mais il est décédé aux États-Unis et dans un lieu qu'on connaît pas, et sa femme est toujours aux États-Unis, et sa famille est toujours planquée aux États-Unis. Avec le système de protection des témoins, on ne sait pas où, parce que justement, ils sont toujours susceptibles d'être pris pour cible, parce que ouais, la mafia, quand elle ne peut pas t'avoir, elle s'en prend à ta famille sur 20 degrés. C'est-à-dire que tes enfants, tes cousins, tes trucs, ils s'en prennent, ils les dessoudent, ils n'en ont rien à foutre. C'est le genre de truc qui a convaincu les gens de parler au bout d'un moment, parce que ça devenait beaucoup trop violent, quoi. Les mecs déconnent pas. Quand il y a du pognon en jeu, et le pognon de la drogue encore plus, les mecs ne déconnent absolument pas. Alors après, ça, j'ai l'air de m'emballer comme ça. Faut relativiser aussi, c'est quand même un film qui fait 2h30. On sent qu'on a un réalisateur qui voulait en mettre plus, parce qu'il y a des scènes qui sont cuptées un peu brutalement. Et en même temps, tout n'est pas complètement égal. Ça marque parfois de rythme, on n'est pas trop à fond. Le cœur, ça reste quand même les scènes de procès. Je dis pas que c'est pas impressionnant, parce qu'évidemment, les scènes au Brésil, quand le mec se fait torturer, que sa femme est pendue à un hélicoptère, bon, il y a quand même une tension pour le faire parler. Mais c'est vrai que le film vaut pour les scènes de procès qui sont finalement le point d'orgue, qui sont incroyables. Le coup du procès, c'est pas mal, ça permet aussi de, au lieu d'avoir une scène où il parle avec son meilleur ami, où ils se disent qu'ils sont meilleurs amis et qu'ils gagnent sa vie de telle manière alors que le meilleur ami est au courant, mais ils le font pendant un procès, pendant un interrogatoire, ce qui est quand même plus logique.
Le traître de Marco Bellocchio, quand même, ça déconne pas. I need you to listen to me. The world's a hungry place. A dark place. Hi there. I only met two or three people like us. They died. When I was a kid, I bumped into these things. I don't know about magic. I always called it the Shining. On continue dans les films d'Halloween avec le énième film d'après une histoire de Stephen King. On a eu Cemetery, ça chapitre 2, et là on a eu la réédition de Shining aussi récemment. On a eu des trucs sur Netflix, et là cette fois-ci on a la suite de Shining, Dr. Sleep de Mike Flanagan avec Ewan McGregor et Rebecca Ferguson. La suite des aventures de Danny Torrance donc. Qui vient aider une jeune fille qui aurait les mêmes pouvoirs que lui. Thierry, tu es allé voir le film avec Yassa, parce que moi, Stephen King, là, je commence à en avoir un peu marre. Donc Yassa m'a remplacé, merci Yassa.
Mais de rien, et je ne serais pas venu voir ça, donc j'ai préféré aller voir Dr. Sleep.
Thierry, Yassa, votre avis de Dr. Sleep, j'espère que vous n'êtes pas endormi pendant le film.
il faut expliquer un petit peu le cheminement qui a amené à cette histoire pour comprendre un petit peu et surtout qui a amené à ce film et qui peut évoquer des frayeurs qui sont évitées sans être évitées. 1977, Stephen King sort Shining. Du coup, le bouquin fait un carton. Du coup, une adaptation se met directement dans les vrac. Elle est confiée à Stanley Kubrick. Manque de peau, Stanley Kubrick n'a pas du tout la même vision que King. Du coup, ce qui intéressait Kubrick, c'était de montrer la tombée dans la folie de Jack Torrance, joué par Jack Nicholson, alors que le bouquin est surtout centré sur le Shining, donc le don du gamin de Danny, et qui est un don qui lui permet de voir des entités, généralement des morts, et de communiquer également avec les personnes qui ont le même don que lui. Le bouquin est très centré là-dessus. Du coup, clash entre les deux. Flanagan, quand il récupère le projet après l'écriture de Doctor Sleep, donc que je n'ai pas lu, donc je sais pas si tout est... Mais il semblerait que l'adaptation est assez fidèle, décide du coup d'adapter Doctor Sleep, de l'adapter très fidèlement, mais en gardant l'imagerie de Kubrick. Alors je sais pas comment King l'a pris, je me suis pas trop renseigné là-dessus. Il a peut-être dû sursauter en se disant « Oh là là, encore quelqu'un qui va adapter librement mon bouquin !»
Projet casse-gueule.
Mais... voilà, du coup, on est face à un cinéaste qui a envie quand même de rendre un immense hommage à Kubrick dans son imagerie, mais qui veut adapter King à la lettre. Du coup, c'est un peu entre deux.
Il a qu'à regarder Ready Player One.
Le film n'est pas du tout une catastrophe. Par rapport aux adaptations de King qu'on a eu cette année, moi, tu te rappelles, on était là pour ça, chapitre 2, que j'ai trouvé assez mauvais, surtout comparé au premier, qui était plutôt une bonne surprise. Cemetery, j'ai pas du tout aimé. Là, on est plutôt dans la partie haute des adaptations de King. Et surtout grâce à Flanagan. Parce que le matériau du bouquin, je le trouve pas fou. Ça a l'avantage de ne pas, même s'il y a beaucoup trop de similitudes et qu'on y revient, d'essayer d'avoir un arc assez différent, de raconter une autre histoire, sans le faire vraiment. Mais au moins, Flanagan, c'est un cinéaste d'ambiance, et il sait poser sa caméra, il sait poser une ambiance, et il sait créer le malaise. Donc là-dessus, c'est plutôt réussi.
Alors ce que j'ai pensé du film, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'horreur en tant que telle. Alors je ne sais pas si c'est dû au fait qu'on soit déjà habitué à l'adaptation de Kubrick. J'ai pas vraiment eu peur, parce que je m'attendais à avoir peur, hein. j'aime pas avoir peur, d'accord. Mais ce qui m'a pas mal étonné, c'est d'avoir eu un suspense. Il y a une bonne montée de suspense. Pendant tout le film, on a des scènes justement où c'est plutôt calme et puis ça monte. Le petit problème, ce que j'aurais à reprocher dans le film, dans sa globalité, c'est que ces montées de suspense, en fait, ça monte et puis ça stagne pendant un long moment avant que ça redémarre, tu vois. Et en fait, ça coupe un petit peu dans l'élan de la scène, c'est-à-dire qu'on va retrouver Danny qui va être confronté à plusieurs phénomènes. Et en fait, ces phénomènes, ils sont pas flippants en tant que tels, c'est juste qu'ils te mettent un petit peu mal à l'aise, tu te poses un petit peu la question, mais tu te retrouves en fait à te dire oui, ça démarre, mais démarre vraiment quoi. C'est servi par une bonne ambiance audio, c'est-à-dire que on te dit que tu commences à en sentir la musique qui arrive, et donc tu as le suspense qui va avec, c'est assez bien fait, mais il y a quelque chose en fait qui est dérangeant, et il utilise beaucoup les percussions là-dedans, qui je trouve ont quelque chose d'inquiétant. Et en même temps, qui pose bien l'ambiance. Tu rentres dedans. Le problème, c'est que, je reviens à ce que je disais, c'est que c'est desservi par la longueur en fait de la montée en suspense, qui moi m'a parfois deux trois fois sorti un petit peu de l'intrigue. Mais sinon, globalement, franchement, j'étais à fond, comme si je regardais. Ça fait un petit peu téléfilm, hein. Mais c'est comme si, ouais, un petit peu.
Tu parles de la longueur, c'est vrai qu'il fait 2h30 quand même.
Ouais, mais il raconte beaucoup. Enfin, moi, je trouve qu'il raconte beaucoup de choses. Alors après, moi, c'est marrant parce que c'est un peu le contraire de Yassa. C'est à partir du moment où ça démarrait vraiment dans l'action, entre grands guillemets, c'est là où je trouvais que ça pêchait. Et c'est plutôt dans la mise en ambiance que j'arrivais à m'y retrouver. Flanagan avait fait Jesse, je crois que c'était l'année dernière, du coup, sur Netflix. Et c'est un huis clos. Donc, du coup, on sait qu'avec des espaces réduits, dès l'instant qu'il s'agit de poser sa caméra avec des mouvements très simples mais efficaces, il sait parfaitement le faire. Voilà, les seuls à la limite fantasy qui se permet à la caméra, c'est quand il singe un minimum Kubrick justement dans l'overlook. Par exemple, il y a une scène de fusillade, c'est incroyablement mal monté. En fait, à partir du moment où il y a des choses à montrer et qu'il y a du rythme, là il se perd un petit peu. Par contre, quand il s'agit de poser des plans beaux, bien, avec un beau point, avec une belle lumière, avec des belles choses à voir, ça il sait tout à fait le faire. Mais dès l'instant qu'il faut que ça démarre et qu'il faut que ça bouge, ça pêche un peu plus.
Mais de ce côté-là, je pense qu'il y a totalement l'opposé de Kubrick qui adore filmer d'une manière très réaliste, même les choses un petit peu surnaturelles, et que là en fait il y a des scènes un petit peu oniriques, tu vois, que j'ai trouvé extrêmement réussies, tu vois. Ça aurait pu être kitsch, ça aurait pu être ridicule, et qui sont justement extrêmement bien amené. En comparaison, par exemple, justement, tu parlais de la fusillade qui est complètement lambda et t'es franchement pas investi. Hein. Il se passe des choses et t'es là, ouais, bof, ok, passons à la suite, quoi.
Connaissant King, j'imagine que même la fusillade sur bouquin, ça doit pas être ce qui le passionne. Donc, de toute façon, il devait pas y avoir beaucoup de matière sur le papier adapté. Alors après, là, c'est plus au niveau de l'histoire où t'as les similitudes et l'éloignement. On est sur une intrigue qui est censée passer 30 ans plus tard, mais on commence juste après les scènes de l'Overlook pour montrer que Danny est encore traumatisé. Il y a un très très bon choix qui est fait, c'est-à-dire qu'on va voir Danny Torrance, on va voir sa mère Wendy Torrance, on va voir aussi Jack Torrance, et on va voir Dick, le personnage qui lui avait annoncé qu'il avait le Shining, qui était l'un des gardiens de l'hôtel. Ils ont pris des autres acteurs qui ressemblent suffisamment, mais qui ne sont pas des copier-coller. Donc du coup, on n'est pas dans la redite, on est en t'acceptes les personnages et on n'est pas en mode t'as vu comme il ressemble ou on l'a modifié numériquement pour qu'il y ressemble. C'est plutôt agréable, du coup on voit des gens jouer. Ne serait-ce que ça, c'est plutôt cool. Donc ça se passe 30 ans après où Danny a un peu suivi le même pas que son père, il est devenu totalement alcoolo, il accepte, son don lui fait surtout avoir que des cauchemars et il ne l'utilise pas. Il va apprendre à l'utiliser, à se calmer un petit peu, et puis des problèmes reviennent. L'avantage, c'est que ça nous offre des nouveaux antagonistes. En fait, ça nous montre que l'Overlook n'était qu'une façade et qu'il y a aussi des gens qui sont un peu partout et qui veulent également choper les gens qui ont le même don et qui se réunissent pour faire ça. Donc ça offre des nouveaux antagonistes. Le problème, c'est que ça fait un peu chasse aux sorcières et que là-dessus, l'antagoniste manque de saveur par rapport à un hôtel où tu as énormément de mystification. Là, tout est très expliqué, c'est très concret. Et du coup, alors ça, c'est sûrement sur le papier, hein, Dr. Sleep, ouais, manque beaucoup d'onirisme en fait, je trouve. Et du coup, c'est assez antagoniste par rapport à ce que ça disait, c'est-à-dire que le mec met beaucoup de scènes oniriques, des scènes de rêve, mais dans les enjeux et dans les antagonistes, ça manque justement de cette mystification. Après, voilà, bah, comme je le disais, on va pas tant suivre Danny que ça, on suit une gamine qui a le pouvoir. En fait, c'est une projection, puisqu'on a une gamine qui est l'équivalent de Danny Torrance il y a 30 ans, qui a le pouvoir, qui va se faire poursuivre pour les mêmes raisons, et on a Danny Torrance qui est du coup l'équivalent de Dick, qui va l'aider à utiliser ses pouvoirs pour le faire. Les passages où justement on rattrape Shining dans le huis clos, dans l'Overlook, sont peut-être un peu trop prononcés. Et du coup, ça fait un peu redite.
Un défaut fréquent à beaucoup de suites, hein.
Ouais, un défaut fréquent à beaucoup de suites, mais ça singe pas non plus. T'as même un passage où t'as un des personnages qui passe et tu revois des passages de Shining, mais c'est assez malin. C'est pas non plus toutes les scènes refaites à fond.
C'est pas du tout in your face, tu vois. C'est-à-dire que tu sens la petite touche de « tenez, voilà, bon, forcément, il y a un univers qui a été développé avant, etc. » Et ça reprend aussi bien, justement, ce qui a été développé dans le bouquin que la manière de filmer de Kubrick, quoi. Ça donne, avec la patte du réalisateur, ça donne quelque chose, justement, de nouveau qui fait pas quelque chose de grandiloquent et qui dit « bon, ben voilà, c'est du fan service. »
Allez, un numéro de funambule qui ne se casse pas la gueule, finalement. Ouais. On s'en sort bien. Halloween, c'est au cinéma, mais c'est aussi dans son salon, Little Monsters.
Next stop, Pleasant Valley.
Having a super fun time on our trip.
I want you all in a line in front of me and away we go.
Why are we stopping?
Must be something in the way.
What is it, Miss Caroline?
Don't be scared.
Who remembers how to play tag? Well, those funny-looking people out there are it.
Film d'Halloween, Little Monsters, un film australien de Hebe Forsythe, écrit et réalisé par Hebe Forsythe, avec Lupita Nyong'o, et avec également Alexander England et Josh Gad. C'est un film tout mignon. Alors, c'est l'histoire de Dave qui vient de rompre avec sa copine et pour draguer l'institutrice de son neveu, il va se porter volontaire pour la sortie scolaire à la ferme. Bon, alors il y a un petit souci, c'est que la ferme en question est à côté d'un complexe de l'armée américaine qui fait des expériences bizarres et qui a une fuite et donc des zombies s'échappent du complexe de l'armée et zombifient toute la ferme. Ça va devenir un film de survie dans une ferme avec des petits-enfants et donc la mission ça va être de sauver les gamins. On le précise tout de suite, c'est une comédie. Vous doutez bien qu'avec un scénario comme ça, c'est pas très 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 sérieux.
C'est une comédie qui va dans la lignée, de toute façon, c'est une Shaun of the Dead, hein, clairement, dans le côté désamorcer même des situations qui pourraient être tragiques. Moi, ça m'a fait un peu penser à Black Sheep, cette espèce d'expérience à la con. Bon, là, ça crée des zombies, hein, c'était pas des moutons zombies comme dans Black Sheep, mais ça m'a fait un peu penser à ça, avec un peu plus de moyens, mais ça reste quand même un petit film australien, dont on a eu la chance qu'il arrive jusqu'à chez nous.
Oui, alors il va arriver, il sera en VOD, il sera directement en e-cinéma comme on dit. Donc à moins que vous soyez dans la dizaine de CGR qui va le passer,
peut-être à Béziers, il y a un CGR à Béziers, alors peut-être que, je sais pas. Donc va falloir être sur les rangs, et peut-être que l'épisode passera après cette fameuse séance, donc voilà. Désolé de vous vendre du rêve pour rien. Désolé. Donc ouais, non, sinon vous le verrez sur, je crois, Netflix, Amazon et compagnie.
Alors je sais pas, ils avaient pas exactement précisé sur quelle plateforme, mais en tout cas ça va sortir en VOD. Honnêtement, ça va sortir pile le jour d'Halloween, si vous avez envie de vous éclater. C'est pas la proposition la plus originale de l'année, même dans le genre, mais en tout cas, celle que vous avez déjà vue en salle, si vous avez envie de voir un petit film sympa, fun, qui est clairement le côté pop-corn entre copains pendant Halloween, ça colle vachement bien.
Avec un côté comédie très prononcé, comme on le disait. Toi, tu connaissais pas le film, tu savais pas trop ce que ça allait être. Moi, j'avais vu la bande-annonce avant, donc je savais que ça allait virer aux zombies. Mais pendant un moment, on se dit que ça va être une comédie romantique parce que le mec s'engueule avec sa nana au début. On est sur le schéma du mec qui s'engueule avec sa copine et finit chez sa sœur, à loger chez sa sœur.
Il y a le langage extrêmement cru, il y a tout ça. Mais en fait, au début, je me suis vraiment dit que ça allait partir dans une comédie à l'américaine, à la Seth Rogen, en fait. De le côté, il fait jurer les gamins, enfin... Ils n'hésitent pas à faire des blagues dégueulasses. Je me suis dit, bon, ouais, ça va aller là-dedans. On n'hésite pas à faire à la fois des blagues qui sont relativement subtiles, à la fois des blagues de très mauvais goût. Entre les touristes asiatiques qui sont bien concons, qui prennent des photos avec les zombies, et le petit gros que le militaire arrive pas à porter alors que c'est des gros militaires balèzes.
Ouais, les adultes, il a pas de mal, ouais.
Voilà, ils n'hésitent pas à faire tout un panel. Donc, si tu veux, je trouve que ça se noie, en fait, dans les blagues qui sont sympathiques, donc les blagues de mauvais goût passent plutôt bien. Au final, tout est prétexte à faire une blague, et à force d'en tenter 3 tonnes, il y en a bien qui passent. Alors en fait, toi, tu dis que c'est un film de survie, moi j'ai pas trouvé tant que ça. Il y a le côté film de survie parce qu'ils sont dans une apocalypse zombie, mais en fait, moi j'ai vraiment vu la problématique du film comme n'étant pas il faut qu'on arrive à se sortir de là, mais plus comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que toutes ces heures qu'on va passer à l'intérieur de cet endroit bloqué avec des zombies autour va être fun pour les gosses.
Oui.
Le film est juste ça sur comment est-ce qu'on va désamorcer ça pour des gamins et comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'ils passent un bon moment malgré tout en pensant que tout est un jeu et qu'il n'y a absolument pas une apocalypse zombie qui est en train de s'opérer à côté. Et en ça, j'ai trouvé ça très fun en fait. Du coup, ça tourne un peu en rond sur certains schémas. On va leur chanter des chansons, voilà, un truc. Mais c'est ce que j'ai trouvé. Enfin, c'était un ressort comique qui était assez original pour le coup et que j'ai trouvé très fun à regarder.
Oui, c'est drôle, mais oui, ça tourne autour des gamins, la relation avec les gamins, tout ça. Oui, mais ça reste une survie, parce que si tu commences à les faire paniquer, c'est d'abord. Et puis d'ailleurs, je pense que tout film dans une salle de classe avec des gamins de 6 ans est un film de survie, même sans zombies. Quand le petit Billy demande d'aller jouer du mini-golf...
Tout le temps, et en fait, non, mais ça encore, bon, c'est pas très bien expliqué, mais c'est un syndrome de la panique. Le gamin commence à paniquer, donc il se raccorde à la seule chose qu'il a envie de faire, parce que c'est le seul truc qui peut désamorcer ça et qui va... où il va se... Enfin, si les adultes lui répondent oui, il va se dire, ok, c'est bon, on est bien dans un jeu. Et là, il panique pour ça, pour attirer l'attention, parce qu'il se sent pas bien. Et c'est juste ça, quoi.
Non, c'est juste un gamin de 6 ans. Ou de 5.
Je vais te faire lire des trucs fantastiques sur les caprices.
Tu vois. Je sais, tu veux... Merci.
je sais, je rigole.
Je veux juste un prétexte pour gifler un gamin.
Ah bah, il y a des personnages qui se gênent pas. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, ce que ça peut potentiellement dire... sont des choses qu'on a déjà vues. Ça fait plaisir de les revoir, mais c'est vrai que le côté, il y a un animateur par exemple de télévision que les gamins adorent, il est là, il va se retrouver enfermé avec eux, et en réalité c'est un gros connard, qui n'aime pas les enfants. Voilà, ça c'est des clichés, on savait pertinemment qu'on allait voir ça. Moi d'ailleurs, quand le personnage est apparu, je l'ai vu dans le parc, j'ai fait « Ah lui, ça va être un enculé », ça a pas loupé. Mais en soi, bon, même si ouais, je me suis dit, ils vont très facilement dans les ressorts, même dans le ressort romantique sur les personnages principaux, c'est très facile, un peu trop facile. Mais on ne boude pas son plaisir, on passe un bon moment et ça fait du bien en fait, une petite comédie légère.
Little Monster, ouais, à manger avec à regarder avec des bonbons pour Halloween.
C'est ça, c'est fun. Alors évidemment, si vous avez déjà éculé, bah voilà, Zombieland, c'est un bon exemple. Shaun of the Dead et toutes les comédies zombifiques, évidemment que celui-là, il ne va pas vous sembler très original. Mais au moins, il fait plaisir à voir, comme ça.
Et les enfants peuvent regarder du coup ?
Partir de 8-9 ans, peut-être pas avant.
Vous leur montrerez en même temps que... le truc avec les gamins.
Midsommar ? Non,
Oui. Oui, bien sûr. Non, le truc avec
Good Boys.
Avec Good Boys. Ben voilà. Little Monster, Good Boys, la soirée à thème.
Voilà, comment enterrer l'innocence de ton gamin quand tu considères qu'il commence à dire des conneries, tu lui fais un diptyque.
Voilà.
First you must ask yourself, are you wealthy?
Simple truth of the world is that most games, for someone to win, well, someone has to lose.
pendant que je subissais les municipaux, Thierry était au chaud à regarder le dernier Soderbergh, The Laundromat. Alors ce n'est pas l'histoire d'une machine à laver dans une laundry. L'affaire des Panama Papers, un film avec un casting de folie. On a Antonio Banderas, on a Gary Oldman, Meryl Streep,
James Cromwell aussi.
On a aussi David Schwimmer de Friends. Voilà, il fait des petits trucs de temps en temps. Voilà, Robert Patrick. Bon, bref.
Il y a Mathias Schoenaerts et Jeffrey Wright aussi.
Alors, les Panama Papers, grosse affaire de blanchiment d'argent, entre guillemets, fait d'évasion fiscale, que nos amis les escrocs financiers connaissent bien. Enfin, pour contourner le fisc, c'est absolument pas pour l'escroquer. Alors, que vaut ce film ? Est-ce un placement sûr ou une escroquerie ?
C'est un peu entre les deux. Moi, je l'ai vraiment regardé parce que c'était le nouveau Soderbergh et que ça m'intéressait de voir ce qu'il allait faire, notamment avec Netflix en partenariat avec eux. Le film est un peu entre deux. Moi, j'aime bien ce qu'il raconte. La façon dont il le raconte, c'est un petit peu plus fastidieux. Ça va parler de la manière dont ils se sont fait dénoncer. Surtout en fait, donc ça va suivre un cas pratique, mais alors après je suis même pas certain que le cas pratique soit réel, puisque ça c'est un peu, enfin même les personnes qui ont dénoncé ça sont pas mal sous couvert d'anonymat. Donc ça va suivre à la base en fait l'arc autour de Meryl Streep, donc qui du coup est une retraitée l'américaine moyenne, qui avec son mari, qui va faire une croisière, et leur bateau se retourne, il y a beaucoup d'accidents, son mari meurt, et en gros au moment où elle est censée récupérer des indemnités, ce genre de choses, Elle essaie de refaire sa vie de manière correcte, mais elle se rend compte qu'en réalité, elle s'est fait totalement avoir parce que la boîte de croisière était détenue par un trust et qu'en réalité, il n'y aura pas la moindre thune qui va lui parvenir, quoi, qu'elle va toucher des clopinettes. Donc du coup, à partir de là, elle va essayer de suivre en fait la manière dont ça a évolué et pourquoi ça lui est arrivé, à qui appartenait cette compagnie, qui l'a arnaqué, est-ce que c'est la banque, est-ce que c'est... Voilà, elle va remonter la filière en fait. Et donc, chaque fois qu'on a un nouvel élément, on va voir deux banquiers qui sont donc joués par Antonio Banderas et Gary Oldman, qui eux sont en mode vidéo promotionnelle de vacances, où ils parlent à la caméra et où ils expliquent comment est-ce qu'on fait du blanchiment d'argent. Il y a un côté très ludique dans l'explication de tout ça, et il y a un côté très fun. De la part de quelque chose qu'on essaie de dénoncer, j'ai trouvé ça beaucoup trop fun en fait, dans la façon dont ça a été montré. J'ai eu l'impression que Soderbergh en fait essayait de faire un mélange entre The Big Short et Le Loup de Wall Street, parce qu'eux ils ont le côté vent, ils parlent à la caméra, mais limite du gueule dessus, t'as les passages où ils te regardent en mode « Et à ton avis, est-ce que c'était légal ce qu'on faisait ?» Bien sûr que oui. Et ça les fait marrer, donc du coup un peu à la Jordan Belfort. Et le côté, voilà, le cotif, on t'explique absolument comment ça fonctionne avec des cas pratiques, donc Big Short. Sauf que Soderbergh, même si c'est quelqu'un d'assez talentueux, eh ben c'est ni Scorsese ni Adam McKay. Et ça se ressent, c'est confus.
Du coup c'est quoi ? C'est une série de sketchs et de trucs ? Non. C'est un arc principal, on suit Meryl Streep dans ses aventures ? Non. C'est des petits trucs, on suit... C'est quoi le fil rouge ?
Tu vois, c'est confus, hein. c'est bien ce que je dis. En fait, le fil rouge, normalement, c'est Meryl Streep qui avance et qui remonte la filière. Sauf que c'est entrecoupé. Chaque fois qu'on part sur autre chose, ils vont t'expliquer le cas pratique et ensuite on revient sur elle, qui réavance. Et du coup, tu t'y perds un petit peu parce que bon, il a essayé d'expliquer en 1h30, c'est très court au final, toutes les manières que vont utiliser les banques, les compagnies, les trusts pour faire leur blanchiment. Mais c'est ultra confus. T'as vu, les banquiers, c'est des malins, hein. Ils nous ont bien eu. Hein. Et ça s'arrête un peu là.
En même temps, les banquiers sont des malins, ils nous ont bien eu.
Les banquiers sont des malins qui nous baissent depuis excessivement longtemps. Qui n'ont pas eu besoin de ça et qui continueront derrière.
D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui est en train de défaire la boucle de ta ceinture. Monsieur, non, on est en train d'enregistrer là.
Donc voilà, donc comme on le voit avec mon résumé, c'est très et trop confus. Mais au-delà de ça, ça reste assez fun à regarder. Pour Banderas et Gary Oldman qui se font bien, bien, bien plaisir justement dans leur passage explicatif. Où c'est, voilà, on sent que ça a été fait avec des intentions sympas. Meryl Streep est fantastique. Pourtant, rien de nouveau hein, sous le soleil, mais voilà. Ça se regarde bien. Après, de la part d'un gars comme Soderbergh, et pour un sujet comme ça, ça manque quand même de panache.
Ouais, une production Netflix, quoi.
Une production Netflix, ouais, c'est ça.
Pas de miracle en VOD. On nous a vendu un grand film, et finalement, bah, on a un téléfilm.
Après, de là, non, on nous a même pas tant vendu un grand film que ça. Moi, je veux dire, j'ai vraiment appris qu'il existait quand il est apparu sur la plateforme. Je veux dire, ça a pas tant communiqué dessus. Des gens se sont mis en parler. Je me suis dit, tiens, je vais le regarder. Enfin, je veux dire, voilà. Mais je veux dire, même Soderbergh, il est pas du tout mis en avant. Enfin, t'as son nom dans les crédits, quoi. Mais ça a pas été mis en avant comme étant son nouveau film. Je veux dire, Netflix, de toute façon, déjà, ils savent pas communiquer sur les films. Hein. C'est une catastrophe là-dessus. Mais oui, en plus de ça, je veux dire, même de la part d'un réalisateur qui est très reconnu, ça a pas fait tant de vent que ça.
Et avec le casting qu'ils ont aussi, quand même.
Avec le casting qu'ils ont, ouais.
Bien, un film discret, Comme les Panama Papers d'ailleurs, Netflix n'a pas capitalisé dessus visiblement. Bon, on revient sur les vrais films au cinéma.
Est-ce que tu me reçois ?
Je te reçois, Christian, mais je te mets pas 5 sur 5, je te mets 4 sur 5 parce qu'il y a des grésillements.
Allez ! Cette fois-ci encore, on l'a bien préservée, la planète.
C'est beau, tous ces municipaux.
Il va falloir commencer à écrémer.
Rien qu'à l'idée qu'ils vont virer du monde et qu'on fait rien.
Enfin, on fait rien, on réfléchit déjà.
Mais on va pas se laisser faire. Hein.
La révolte gronde. Ouais.
La lutte se prépare.
C'est la lutte.
Non, pas maintenant.
2018 a connu la sortie du meilleur film français qu'on avait vu depuis 15 ans. Si puissant, si fort, que nous sommes pratiquement les deux seules personnes à l'avoir vu, en tout cas en région parisienne. Si bien que, pour sa suite qui sort maintenant, la distribution n'est pas farouche par chez nous. Les municipaux, trop c'est trop, c'est ça, c'est le nom du second.
Ça porte bien son nom, ouais.
Thomas, tu m'as abandonné, tu es allé le voir tout seul en traître.
Ouais, c'est vrai qu'on avait vu le premier ensemble, c'était pas terrible. Enfin, c'était pas terrible, c'est particulier, on va dire.
Non, c'était très très mauvais, hein, je veux dire. Il y a que toi pour relativiser, c'était très mauvais.
Ah non, il y avait pour vendre en fond, c'était une belle carte postale, voilà. Bon, le problème, c'est qu'il y a l'humour des Chevaliers du Fiel aussi, voilà, écrit et réalisé par les Chevaliers du Fiel. À la machine à café, les mecs, ils font les mêmes blagues. Ou au bistrot, au balto en bas, les mecs le font aussi. Non, c'est une forme d'humour. Bon, le problème, c'est que ça reste au balto. Enfin, l'avantage dans la vraie vie, c'est que ça reste au balto ou à la machine à café. Là, c'est sur grand écran, c'est diffusé, c'est produit par C8, donc ça sera peut-être un jour à la télé. Bon, à 23h sûrement, mais ça sera peut-être un jour à la télé. Et ça a marché. Alors, peut-être pas à Paris, parce qu'effectivement, moi, je l'ai vu, c'était dans une des rares salles intramuros où c'était diffusé. C'était un dimanche après-midi, on était 20 dans la salle. Donc, à Paris, c'est pas très, très. Ça marche pas très bien. Mais ça a marché suffisamment pour qu'il fasse une suite. C'est incroyable. Alors, j'ai lu en plus que ça coûtait quelques millions. Il paraît que la région Occitanie a payé, a subventionné le pognon. Je ne sais pas où il est à l'écran. Je ne sais pas. Parce que dans le premier, on ne voit pas le pognon à l'écran non plus. On est d'accord.
Non, mais autant dire que même le premier, je ne me souviens même pas. On n'est pas obligé de revenir dessus, mais je ne me souviens même pas ce que ça raconte. Du coup, est-ce qu'ils ont réussi à trouver une nouvelle intrigue dans la petite ville de Port-Vendres qui valait le coup d'être vue?
Alors, dans le premier, c'était la mairie de Port-Vendres qui faisait des dépenses somptuaires et il fallait faire des économies. Et ça passerait par la réduction de personnel, je crois. Alors que dans le 2, ça n'a rien à voir, puisqu'ils veulent virer des personnes pour faire des économies. Ça n'a absolument rien à voir, bien sûr. C'est exactement le même scénario. Ils ont juste recyclé quelques vannes. Ils ont pris les vannes en surplus de l'épisode qui leur restait de l'épisode d'avant. Il y a un des deux chevaliers, le mec qui fait Gilbert, le petit du. Enfin, son personnage s'appelle Gilbert, qui va se marier avec une nana, mais la nana lui fait peur. Donc, ça fait des sketchs parce que, voilà, tu comprends. Elle a envie de baiser, mais pas lui. J'ai envie de vous dire, si vous faites partie de ceux qui ont aimé le premier, ça va vous régaler. Si vous avez été consterné par le premier, c'est pas la peine. Vous allez vous faire du mal.
Alors, déjà, j'ose imaginer que les personnes qui ne sont pas allées voir le premier étaient les personnes qui ont dû être consternées par la série, parce que c'est l'adaptation d'une série aussi.
Et d'une série de sketchs aussi, la Brigade des Feuilles et les sketchs et leurs émissions radio aussi. Ils ont des émissions radio, les mecs. Non, les mecs, leurs sketchs, voilà, c'est l'aboutissement du Chevalier du Fiel, l'univers. Après, ils sont pas tout seuls. Il y a aussi plein d'humoristes avec eux, quoi. Il y a Bruno Locher qui est avec eux. On a Éric Delcourt qui joue le conseiller qui s'appelle Ménard. Ménard, c'est à Béziers, hein. C'est un autre méchant. Qu'est-ce qu'on a ? On a Angélique Panchéry qui joue Véro, celle qui fait peur aux mariés. On a Marthe Villalonga qui est là.
Voilà. Elle n'était pas déjà dans le premier, non ?
Ouais, sûrement. Voilà. On a Chantal Latsou. On a Constance. On a Liane Folly qui fait un tapin, enfin qui fait une escort girl. J'ai vu ça dans la même. Je me suis dit, non, elle y ressemble beaucoup, mais c'est pas possible. Si. Elle doit avoir une réplique. Je sais pas. C'est tellement random et improbable. Voilà. Et puis, on voit moins pour vendre qu'avant. C'est-à-dire qu'on a moins la carte postale qu'on avait avant, ce qui fait que j'ai moins de cœur à le sauver.
Du cœur à le sauver, c'est bien ce qu'il faudra pour que nos chers amis des Chevaliers du Fiel puissent en faire un troisième, où ils raconteront sûrement l'histoire d'une mairie qui a besoin de faire des économies pour pouvoir survivre.
Bon, vous l'aurez compris, les municipaux, c'est à l'image du premier. On voit pas trop pourquoi on en a parlé, mais on l'a fait quand même.
On a parlé de Maléfique 2 et d'Angry Bird. Je pense qu'on n'est pas à ça près. Même les bouses françaises, on droit la part. Et puis non, mais c'était surtout pour rééquilibrer la balance. Tu t'as subi ces deux trucs tout seul. Bon, voilà, je t'ai épargné celui-là. Ouh. J'ai cru que je survivrais jamais aux municipaux.
Ah bah moi, je vais considérer que c'est mon film préféré de la semaine parce que vu que je ne l'ai pas vu, c'est un bonheur.
Encore une semaine avec beaucoup de films. Bon, on était très très vite sur ces films-là parce qu'on avait le festival du film coréen qu'on est en train d'enregistrer au moment où vous écoutez l'épisode, si vous l'écoutez à sa sortie. Au moment où l'épisode sort, on est en train de voir des films sur les Champs-Élysées pour le festival du film coréen à Paris qui, si tout va bien, si on est bon dans les montages et si on est à temps, sera publié la semaine prochaine.
Avec un peu d'espoir. Mais là, dites-vous qu'on vous sort un épisode avec beaucoup de films. Et là, au moment où on est en train de clôturer cette conclusion-là, je sors de Dr. Sleep et on a déjà vu 12 films au Festival Coréen. Ça fait beaucoup de films cette semaine. Vraiment beaucoup.
Aïe, 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 aïe. Dr. Sleep, il faudrait peut-être qu'il fasse quelque chose pour notre sommeil parce que là, ça commence à piquer. Là, ça va que c'est les vacances. Parmi les films de la semaine, est-ce qu'il y en a un que tu retiens ou pas spécialement ?
C'est pas non plus un grand cru cette semaine. En plus, moi, les deux films qui m'auraient vachement intéressé, c'était Le Traître et Mon Chien Stupide. Bah, pour l'instant, je les ai pas vus, je les rattraperai. Peut-être qu'au final, j'en dirai deux mots la prochaine fois. Du coup, dans ce que j'ai vu, c'est peut-être les limites Dr. Sleep qui sort un petit peu du tas parce que ça a évité une catastrophe. Et The Laundromat, qui est pas fou, mais bah, un peu au-delà, au-dessus du reste, quoi. C'était pas une semaine folle pour moi, hein.
Eh bien, tu vois, les deux films que tu voulais voir, ce sont pour moi les films de la semaine, surtout Le Traître en particulier, voilà, de Marco Bellocchio, gros gros film, moi je suis à fond là-dessus, pendant qu'il y a de la fumée qui sort de la boutique à côté de laquelle on est. C'était Certains Lamas Chauds. Merci Thierry.
Merci Thomas.
Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et merci Alex d'être là, parce qu'il est là pour enregistrer des films.
Il rejoint, il va mieux.
On le ressuscite pour le festival coréen, c'est promis.
On s'est dit qu'on allait le garder pour Halloween, comme ça, ça fait de la déco.
On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial film coréen, on l'a dit. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, on fait plein de stories avec Octave, avec notre peluche, notre mascotte. Rejoignez-nous sur les réseaux, abonnez-vous, partagez, commentez l'épisode aussi. Que ça soit sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram à CLAC Podcast, CLAAC Podcast, ou bien sur les applications comme iTunes, faire Apple Podcast, où vous pouvez mettre 5 étoiles. Pareil sur Deezer et Spotify, j'imagine qu'il y a un système de notation qui marche très bien. Vous pouvez également partager l'épisode et en parler autour de vous pour nous faire connaître et pour partager votre passion du podcast et du cinéma. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous.
Bisous. Oui, bisous Alex, bisous. 'Traître' de Marco Bellocchio, un film sur le témoignage d'une personne qui a fait tomber la Cosa Nostra.
Ah, je sais pas, moi j'ai rien vu, je suis pas au courant, je sais pas de quoi vous parlez, Cosa Nostra, je sais pas, désolé.
T'es sûr quand même
Non, aucune idée, je sais pas.
Bon.